vous inscrire pour avoir des informations sur les jeudis antifrères. Voilà. À toi la parole,
Jean-Pierre. Ok, ben, je vous remercie. Alors, ben, alors, si c'est. Pour vous parler de ce conflit, il est important de parler dans quel secteur d'activité je travaille. C'est-à-dire que je suis au McDo, c'est une grande. Je pense que tout le monde sait ce que c'est ici. Donc c'est une boîte de restauration. Et donc on est dans le commerce, et nous, dans notre entreprise, et dans tous les McDo, c'est le même cas, et dans le commerce généralement. C'est qu'on a un taux de roulement des employés, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui s'en vont que de gens qui restent à l'intérieur des boîtes. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas une forte ancienneté, il y a beaucoup de. Des gens, ils viennent travailler 6 mois, 1 an, etc. Donc on a des petits contrats, des 24 heures, des 20 heures, des 30 heures pour les plus chanceux. Et après. Il n'y a que quelques personnes, les encadrants, qui sont à 35 heures. Donc on a tous des salaires entre. On tourne du plus bas à 600 euros à 1000 euros. Donc il y a une fourchette très basse. Donc on est en dessous du seuil de pauvreté pour la plupart. Et donc si je précise tout ça, c'est parce que c'est très important à prendre en compte pour le cheminement après, c'est-à-dire que le moment où on se met en grève. C'est-à-dire que. Aujourd'hui, en France, c'est le McDonald's, c'est une des rares entreprises qui embauchent directement en CDI. Ils ne font que des CDI. Ouais, c'est que des CDI, ils ne font pas de CDD, ils ne font pas d'intérim. C'est directement en CDI. Donc ça sur les salariés justement que tu parlais, qui ont fait plusieurs boîtes, qui ont changé énormément, tout ça, qui n'arrivent pas à se stabiliser. Dès qu'ils voient ce fameux CDI, c'est génial. Et donc et après il y a aussi souvent, c'est le Saint Graal à avoir. Et il y a aussi des jeunes salariés, c'est leur premier travail. Moi c'était mon premier travail. C'était la première fois que je venais de Limoges. J'avais atterri ici, je cherchais du travail et j'ai trouvé directement le McDo. Ce qu'ils m'ont dit clairement. On te recrute parce que tu es un travailleur handicapé. Donc je me demande si j'avais pas été, est-ce que j'aurais été embauché, mais bon, ça c'est autre chose. Donc du coup, ils m'ont embauché, j'ai fait mes 1 an et demi très bien, j'étais très inspiré de par l'engouement d'entreprise, c'était. On se tutoyait, c'était très familial, c'était on est cool et tout entre nous, c'était, je trouvais ça bien. Mais je me disais, il y avait plein de petites incohérences que je voyais au quotidien, que je me disais, c'est pas normal. Mais bon, moi aussi, je faisais ma vie, j'allais travailler, je rentrais chez moi. Vu que je faisais que 20 heures par semaine, je me prenais pas trop la tête. Quoi. Et donc, jusqu'à que un jour, on me refuse mes congés payés et que je me rentre... Et ça, je savais bien que quand même, c'était quelque chose de... Enfin, les congés payés, je savais que ça, on pouvait pas dire non. Parce que je savais que ça, c'était le droit. J'avais pas trop de connaissances sur le droit, mais ça, je savais que c'était bon. Et donc, du coup, c'est là que j'ai passé la porte d'un syndicat, notamment de la CGT, et c'est là que j'ai commencé à me dire, tiens, il faut que je m'intéresse à mes droits. On a assez des élections, etc. Et en fait, si je vous parle de tout ça, c'est qu'il y a un événement très marquant. C'est le jour où je suis arrivé au travail. On avait lancé les élections. J'étais même pas encore... C'était pas fait que je sois représentant du personnel. Mais on nous obligeait, en fait, à nous raser. Donc on devait venir tous les jours avec une barbe nickel. Enfin, on devait être rasé à blanc. Et un jour, moi, je suis arrivé, j'ai dit, mais en fait, ça, vous n'avez pas le droit. Vous avez pas le droit de nous obliger à nous raser, c'est notre liberté individuelle. Et là, on me dit, ah bon, c'est qui t'a dit ça? C'est pas vrai. Tu l'as signé sur ton contrat, tu dois t'y obliger, c'est comme ça. J'ai dit, non, à partir d'aujourd'hui, je ne le ferai plus. Et donc, j'étais arrivé avec la barbe et tout ça. Et donc, et franchement, j'étais très mal. J'étais terrorisé parce que c'était le grand chef qui me disait « Non, tu n'as pas le droit !» Et moi, je me disais « Mais je m'étais renseigné, on m'avait dit que si. » Alors, j'ai tenu bon, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que le superviseur, à l'époque, a essayé de me licencier. Il a appelé... ma gérante, pour dire qu'il voulait me licencier. La gérante a dit, ben non, tu peux pas, on peut pas aller licencier les gens comme ça, quand même. Et donc, du coup, il m'a fait mettre aux frites, avec un filet à cheveux sur le visage. Un
filet à
barbe ? Non, un filet à cheveux. Donc, c'est-à-dire que, oui, avec les, c'est pas fait pour mettre sur le visage, en fait. Et il me l'a fait mettre sur le visage, en étant aux frites, donc à la vue de tous les clients. Et en fait, si je vous parle de ça, c'est parce que c'est un élément très important, parce que là, j'ai vu tous les salariés me regarder, et je voyais bien sur leur visage qu'ils trouvaient ça moche, qu'ils trouvaient ça dégueulasse, que c'était injuste, et même les gens qui appréciaient, etc. Mais il n'y en a pas un qui a dit, à ce moment-là, mais là, c'est pas normal. Et là, je me suis dit, j'ai eu une réflexion, et je me suis dit, mais si là, à ce moment-là, il n'y en a pas un qui peut dire que ben, ce qui se passe, c'est pour ma dignité, ben, c'était pas quelque chose qui se faisait. Et je me suis dit, mais il faut qu'ils aient une voix pour représenter ce qui eux, n'ont pas la force de dire, pour justement qu'il n'y ait pas ce genre de choses, en fait. Parce que je me suis dit, à ce moment-là, mais c'est... C'est grave, c'est impossible qu'il n'y ait personne qui n'ait rien dit. Trop peur de se faire engueuler, trop peur d'avoir des réflexions, trop peur de qu'on te change de planning, que tu viens travailler le soir au lieu de travailler le matin, parce qu'ils ont une multitude d'outils pour faire partir des gens. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de faire de CDD, de intérim, parce que justement, ils te mettent 3 mois aux frites, et bien... Ça te flingue les poignets, et puis après tu pars, quoi. Donc ils n'ont pas besoin de se soucier de CDD, etc. Parce que ben, ils ont tous les outils, tout un panel pour se débarrasser des gens s'ils le souhaitent. Et si je mets un point sur tous ces éléments, c'est parce que durant la grève qui a duré 7 mois, on nous a souvent demandé pourquoi vous êtes que 6. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous faisait mal, en fait, à nous. Parce qu'on se disait, mais on n'est pas que 6. On est déjà 6. C'est-à-dire que, dans un McDo, être 6 invités à la CGT, notamment, c'était pas quelque chose qui était forcément facile à porter, parce qu'on ne veut pas. Parce que dans ce genre de boîte, eh bien, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de... On se défend pas, vu que les salariés sont fraîchement, c'est leur premier travail, ils n'ont pas de connaissances sur les luttes. Moi, c'est en étant en lutte que j'ai appris les précédentes luttes qu'il y a eu de par le passé et qu'en fait, on a des moyens, on a des solutions pour se défendre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à mes camarades. C'est comme ça qu'on a commencé à se syndiquer, à s'organiser, à être 6 en tout, 7 avec la personne qui s'est fait licencier, parce que ce qui s'est passé, ce qui a démarré ce gros mouvement, c'est le licenciement d'un de nos camarades qui était syndiqué. Et donc nous, on l'a appris le jour même, enfin on l'a appris le 23 août, et normalement le 23 août, on avait une réunion déjà qui était prévue depuis un petit moment. Cette réunion, c'était pour le soir se réunissait, pour savoir si en septembre, donc en septembre de 2017, il y avait des grèves qui étaient annoncées, on devait avoir une réflexion sur le fait si on devait se mettre en grève ou pas en septembre. Donc c'était pas du tout encore prévu qu'on allait faire un mouvement, etc., qu'on allait faire des journées d'action, etc. On allait juste avoir la réflexion. Et en fait, il y a eu ce licenciement qui nous a couper l'herbe sous le pied, quoi. Parce que là, l'ensemble des personnels qui étaient syndiqués, là, ils se sont dit, on doit faire quelque chose, on doit se mobiliser, on doit faire une action pour défendre notre camarade qui, nous, on trouvait que c'était un licenciement injustifié. Donc, du
c'était
coup,
pourquoi le licenciement
alors, il y avait... Il y avait deux retards et il y avait le fait qu'une rumeur qu'il aurait insulté la directrice. Sauf qu'il n'y avait pas de fait. Il n'y avait pas de. Nous, on avait demandé le témoignage de la personne qui aurait entendu ça, mais rien ne nous a été fourni. Donc, ça, nous, ça n'a pas plu aux salariés. Et donc, du coup, on s'est mis en grève. Sous ce motif-là. Et là, ça a été le commencement d'un très long cheminement. Nous, on pensait sincèrement au tout début que les salariés nous rejoindraient, que l'on ne resterait pas isolés. Et c'est ce qu'on a cru pendant longtemps, avec toujours l'espoir que les autres salariés se disent tiens, Il y a quelque chose qui se passe, on peut faire changer les choses, etc. On peut avoir de meilleures conditions de travail, mais ce n'est pas arrivé, ça n'a pas été le cas. On a subi une répression terrible de la part de notre employeur, de la part de plein de gens. Je ne citerai pas tous. Mais donc on s'est vraiment retrouvés seuls contre tous, surtout le premier mois qui a été, que ce soit médiatiquement, on a été pris par la tourmente. Et ça s'est vraiment, on va dire que ça s'est accéléré contre notre gré. On a été pris dans les réunions, dans les négociations, essayer de sortir de ce conflit. Mais sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se lance dans ce conflit, comme ils l'ont très bien dit, on savait pas que nous, ça durait 213 jours. On pensait revenir le soir, à la base. Mais sauf que les concertations avec les camarades qui faisaient grève, à chaque fois qu'il y avait des avancées, à chaque fois qu'il y avait des négociations avec la gérante, à chaque fois qu'il y avait des nouvelles étapes, réfléchissait, on essayait d'être cohérent avec nos revendications et ça, on a dû souvent annuler des revendications pour pouvoir être pas perçu comme les bloquants. Ça a été très long, très compliqué dans ce sens-là. Donc on a dû abandonner un certain nombre de revendications. Pour pouvoir tenir sur la durée et s'en sortir avec des avancées. Et ce qui a été le point marquant de notre lutte, c'est que je cherche la date, en novembre, 30 novembre il me semble, on a réalisé une action de soutien au niveau régional. C'est-à-dire que la CGT, elle s'est organisée au niveau régional, donc que ce soit les départements, etc. On s'est réunis à Toulouse, au centre de distribution de la matière première. C'est là où en fait, on nous envoie les fromages, on nous envoie les viandes, on nous envoie vraiment tout ce qu'on a besoin pour la production, pour faire les sandwichs. Et même pour faire fonctionner notre restaurant. Et nous aussi, on est à flux tendu. Et c'est des petites particularités, vu qu'on a des petits stocks, on a beaucoup de monde, on est très vite à court. Et donc on fait des prévisions, on sait à peu près le nombre de clients qu'on va avoir, donc c'est toujours très très serré, quoi. Donc s'il n'y a pas une livraison, ça pose problème. Il n'y aura pas de vente aux clients, quoi. Donc on s'est dit, on a proposé ça, et donc ce qui s'est passé, on a réussi à le faire. On a bloqué ce centre de distribution. C'était pas un blocage, on a filtré. Et ce qui s'est passé.
Ici, tu peux dire un blocage.
Ici, tu peux dire un blocage.
C'est
bon, c'est passé.
Ficra, c'est pour les filles.
Et donc, voilà, on a fait ce blocage jusqà 15 heures. Après, on s'est fait. On a été obligé de sortir à cause des CRS qui étaient plus présents que les manifestants. Donc, du coup, ça, c'était très compliqué. Donc, on a pu s'en sortir. Mais on a, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a bloqué de 6 heures du matin jusqu'à 15 heures. Donc il y a une trentaine de restaurants qui n'ont pas été livrés. Ça a causé un très gros désordre dans la région. Et en plus, c'était pas vraiment fait exprès, mais le camion qui devait livrer notre McDonald's, en fait, on l'a loupé. Donc lui, il a été livré. Donc en fait, ça a été la seule qui a été livrée. Et ça a été la seule qui a livré, et tous les autres autour. Donc ça, on va dire qu'on ne l'avait pas fait exprès. Mais c'était très bien du fait que ça l'a mis dans une position où il y avait tout le monde qui lui demandait de la nourriture, enfin qui lui demandait ce qu'elle avait, elle, quoi. Du coup, vu que c'était elle la base de ce conflit-là. Et si je parle de ça, c'est parce que le soir même, en rentrant, c'est la première fois que, dans toutes nos actions que l'on avait faites, parce qu'on avait essayé plusieurs fois de faire des rassemblements devant le restaurant, la mairie, à Figeac, dans son autre restaurant, on essayait de faire plein d'initiatives, mais à chaque fois, on s'en foutait, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on faisait ne servait à rien. Et là, c'est la première fois qu'elle nous a téléphoné, on revenait sur la route, on s'est arrêté, et c'est là qu'elle nous a dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Et là, on s'est dit « Ça y est, on tient un truc, là. On a enfin fait ce qu'il fallait, quoi, parce que pour que, en fait, elle nous prenne au sérieux. » Et après, dans les négociations, elle nous l'a dit clairement, droit dans les yeux, que c'est à partir de cette date-là qu'ils nous ont pris au sérieux, étant donné qu'ils ont vu que 5 salariés ont réussi à s'organiser régionalement avec d'autres militants qui ne sont pas dans le conflit, qui ne sont pas dans l'histoire, et de par solidarité, sont venus porter soutien. Et c'est ça qu'ils se sont dit, mince, dans nos stratégies de management, on fait que diviser. Et là, il y a un petit groupe qui a résisté, qui s'est pas cassé dans la division, et qui en plus a réussi à organiser régionalement. Et c'est ça qu'ils se sont dit, faut peut-être qu'on les écoute et qu'on accepte de les recevoir en négociation. C'est là qu'on a pu avancer les négociations annuelles de 2018. Et c'est là qu'on a pu enfin se mettre autour d'une table, en fait. Et là, il y a eu aussi notamment le soutien de la préfecture qui nous a aidés, qui a été reçu avec David. Enfin, on a été très soutenus, quoi. Ça aussi, il faut le dire, de par nos unions locales, de par le département, de par la fédération. Et c'est ça aussi qui a été une particularité de notre lutte, c'est qu'on a fait fonctionner l'ensemble des structures de notre syndicat. Et sans quoi on n'y serait pas arrivé, en fait. C'est parce que à chaque fois on avait du soutien, on avait de la solidarité, parce que les gens étaient émus par notre combat, qu'on était seuls contre tous, on se battait chez McDo pour de meilleures conditions de travail, pour être considérés d'une autre manière. Et ça faisait écho à plein de gens qui se sont dit tiens, il faut qu'on les aide, et donc ça nous a énormément aidé, et c'est comme ça qu'on a pu tenir si longtemps aussi, grâce au soutien local, aux gens qui nous ont aidés. Mais donc c'est vrai que cette grève a duré très longtemps, notamment parce que ma gérante n'a pas voulu prendre en compte 5 salariés qui exprimaient des revendications légitimes qui avaient été préparées en négociation, aux précédentes négociations. On les avait préparées avec les salariés, mais on avait fait que remettre nos revendications. On avait notre cahier revendicatif, donc on l'a ressorti. Et c'est ça qu'on a mené et qu'on s'est battu jusqu'à la fin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les négociations, elles ont été signées en décembre, en fin de décembre. Et après, il nous a fallu 3 mois pour arriver à re-rentrer dans l'entreprise. Alors, parce que ça a été des cheminements en interne, ça a été des raisonnements en interne avec les camarades, ceux qui n'étaient pas prêts encore à rentrer, qui n'avaient pas encore fait le cheminement, ceux qui avaient des doutes, ceux qui... Enfin, voilà, il a fallu travailler tout ça, ceux qui avaient la peur aussi, sur l'appréhension de reprendre, malgré les avancées, ceux qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez, que ce n'était pas suffisamment. Donc il a fallu discuter, il a fallu aussi négocier un protocole de fin de conflit qui a été très compliqué à mettre en place. Et que, au fur et à mesure, on y arrivait, quoi, en négociant, quoi. Et c'est comme ça qu'on a pu retourner dans l'entreprise après autant de temps de grève. Et ce que soulignaient David et Laurent, c'est que il y a un truc qu'ils nous ont répété durant la grève, c'est que on ne peut pas s'imaginer, en fait, ils nous disaient, mais vous verrez, le jour où vous allez re-rentrer dans l'entreprise, ça sera plus comme avant. Il y aura un truc qui aura changé. Nous, on dit, mais non, ils sont, enfin, c'est pas possible, vous savez pas. Eux, ils nous diront des choses, ils seront méchants avec nous, etc., etc. Donc il y avait une grosse appréhension. Et en fait, maintenant que ça fait 2 mois qu'on a repris le travail, et puis même on a vu les premiers jours, c'était flagrant. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'il y avait un avant et un après la grève. Et ça, c'est vraiment flagrant, il faut le vivre pour s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on a bien vu tous les comportements, toutes les personnes, les gens qui nous ont craché dessus, qui nous ont vraiment traînés dans la boue, que là, on les avait en face de nous, mais ils ont... Et c'est les yeux, quoi. Enfin, ils ne nous regardaient pas dans les yeux. On sentait qu'il y avait de la gêne, on savait qu'ils n'étaient pas bien vis-à-vis de ça. Mais au final, là, les choses se remettent tranquillement dans l'ombre. On a repris notre travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 80% du personnel qui a été renouvelé. Il y avait quand même 20 embauches durant la grève. Il y en a plus de la moitié qui n'ont pas été gardées, donc juste les essais qui n'ont soi-disant pas été concluantes. Moi, j'ai un peu du mal à croire qu'il y ait autant de gens qui ne peuvent pas travailler dans notre entreprise. Parce que bon, certes, il faut des compétences, mais je pense qu'en y travaillant... On les a tous. Et ça aussi, ça a été des points qu'on a fait soulever, parce que là, pour Laurence, ils ont des gens qui sont là pour remplacer les grévistes, mais sauf que là, elle a juste embauché les gens en CDI, et ça, on peut le faire. On peut le faire. C'est pas considéré comme étant remplaçant de grévistes, mais non, on embauche. Donc voilà. Alors qu'on savait très bien, tout le monde savait très bien que c'était pour nous remplacer, nous. On pouvait bien faire à ce niveau-là. Donc l'entreprise, elle continuait à tourner, comme si de rien, avec quelques difficultés, parce qu'on nous coupait des postes quand même assez utiles. Et surtout des postes ingrats. on a bien manqué, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de salariés qui se sont retrouvés à faire ce qu'on faisait qu'ils n'aimaient pas, quoi. Donc ils se sont servis de ça pour attiser la haine contre nous. Et ça a été assez dur à porter, mais grâce au soutien des gens et tout ça, on s'en est sorti, on a tenu bon. Et on s'est dit, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'on avait des réunions pour se dire, bon alors, on continue la grève, on arrête et tout ça. Et bien, à chaque fois, on se dit, non, on va jusqu'au bout, on s'est engagé, il y a des gens qui nous soutiennent, et puis aussi, on était portés aussi de par ce que les gens nous disaient, de par ce genre de choses qui nous encourageaient, qui nous disaient que c'était bien ce qu'on faisait. Mais après, voilà, on s'est recentré sur notre lutte, sur les revendications, et on en est arrivé jusqu'à avoir... on a avancé les négociations annuelles, On a eu une prime de 300 euros annuels. Bon, c'est une prime de présence. C'est ça qui nous gênait, nous. C'est-à-dire que c'est les salariés qui... c'est-à-dire que si on est... Il faut être à chaque fois... Il faut avoir aucun retard. Il faut avoir aucun arrêt maladie. Enfin, voilà. C'est très sélect, quoi. Mais on s'est dit, ça mérite d'exister. Et ça peut être amélioré, surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a posé quelque chose qui va pouvoir être amélioré de par les autres combats et de par le travail syndical que l'on mène au quotidien, quoi. Et donc, il y a ça, elle a pris de la elle en plus, etc. On a un directeur des ressources humaines qui a été recruté exprès pour l'occasion, exprès pour nous. Donc on est créateur d'emploi, malgré ce qu'on pourrait dire des fois. Et là, ça a été clairement un aveu de faiblesse de la part de la direction, de devoir embaucher un directeur des ressources humaines pour gérer 33 salariés. Il est bien dans notre entreprise, il est marqué dans notre registre, etc. Hein. Bon, nous, on pense qu'il n'est pas là uniquement pour nous, hein. On pense qu'il est là pour le secteur. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que là, elle a avoué qu'elle ne pouvait plus gérer, ce conflit, que sa directrice ne pouvait plus gérer ce conflit-là. Et c'est vrai que c'était elle qui nous posait problème. Et là ils ont compris, ils l'ont écarté des négociations. Et c'est lui qui a pris les rênes des négociations. Et clairement, ils nous ont envoyé le vrai gars, quoi. Enfin, lui qui sait nous bosser, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on a pu, après trois réunions de négociation, mais on a pu arriver à trouver un arrangement, un accord, et voilà, on a pu sortir de ce conflit qui a été unique.
Mais tu portes plus la charlotte à barbe.
Mais non. Enfin, si, maintenant, on a fait. Ils ont acheté des charlottes à barbe, justement, exprès, on a fait acheter c'est un truc exprès qu'on met ici, là, et qui recouvre la barbe, pour protéger. Voilà, exactement, sauf que là, c'est exprès, c'est vraiment, c'est ample et tout ça, et donc, on met ça pour travailler, au moins, mais on garde notre jambe d'arbre. C'est important, mais ça fait partie des choses qu'on avait fait avant de faire la grève. En fait, c'est de par le travail des représentants du personnel, en un an, on avait posé plus de 350 questions. On faisait remonter des réclamations des salariés, en fait. Donc, c'est-à-dire que chaque mois, on avait entre 30 et 60 questions qu'on allait chercher auprès des salariés, en fait. Hein. Donc entre les portes, entre les couloirs, après le travail, on se réunissait et c'est comme ça qu'on a construit des revendications et qu'on a pu avoir des avancées. Mais ça a été le travail d'être auprès des salariés, de discuter. Et ce qui a été problématique, c'est qu'avec la grève et la violence de la direction à nous dénigrer, c'est qu'ils nous ont coupé du reste des salariés. Et c'est ça qui a été très difficile pour arriver à reprendre contact avec eux, et même à pouvoir se sentir légitime à parler en leur nom, etc. Donc ça a été très difficile, mais finalement, on a pu reprendre le dialogue, etc. Et
Est-ce que c'était des personnels qui se sentaient trop dans la précarité pour s'impliquer dans un combat de revendication?
Complètement. Complètement. Ils étaient dans le schéma que déjà ils écoutaient la direction qui leur disait que nous, notre seul but c'était de faire fermer l'entreprise, que nous on était anti-américains. Forcément, à la CGT, ça, on n'aime pas les grosses boîtes, on n'aime pas les multinationales, forcément, on veut faire fermer notre boulot. Évidemment, c'est notre travail. Nous, on a la vision que c'est pas parce qu'on trouve que notre travail n'est pas bon qu'on doit. C'est pas à nous de nous en aller. Nous, c'est nous qui faisons notre travail, donc c'est à nous de l'améliorer. Et c'est ça qu'on s'est dit à un moment donné, attends, on va pas s'en aller. Alors que le travail, moi, il me plaît pour plein de raison, et que j'y trouve mon compte aussi. Donc du coup, on s'était dit, ben non, nous, on, c'est pas à nous de nous en aller, on va essayer de faire changer les choses de l'intérieur, en essayant de se réunir collectivement, et c'est ce qu'on a fait. Mais sauf qu'on n'a pas réussi, nous, là, à se réunir à 100% du personnel, à faire des jolies assemblées générales, ça nous, ben, on n'est pas arrivé. Et donc, non, mais ça a été... Ça a été pour nous des fois très difficile à se dire, mais allez, est-ce que on va jusqu'au bout, est-ce qu'on on continue. Mais nous, les grévistes, mais à chaque fois on se réunissait, mais nous on en discutait, et bien on voulait continuer, etc. On a toujours eu du cœur à l'ouvrage pour ça. Et donc du coup, c'est ce qui nous a fait tenir bon. Quoi. Et voilà, je pourrais en parler plus tard.
Il y a une question que je me pose, moi, le septième, celui qui avait été licencié donc et qui a déclenché votre mouvement de grève, qui était quand même bien en route, déjà au sein au moins de l'équipe du groupe syndic. Le septième, il a été réembauché?
Non. Il n'a pas été réembauché. Le septième, ce qui s'est passé le 25 septembre. On a été reçu par la sous-préfecture, il y avait David, et d'autres, il y avait un représentant de la fédération, de sous-préfecture. Nous, on était à ce moment-là, on avait du mal à...
Ça faisait un mois,
et la gérante, là, elle ne voulait pas négocier avec nous. Quoi. Elle nous disait, vous revenez, et puis c'est tout, quoi. Elle ne nous laissait pas le choix, en fait. Elle n'avait pas envie de discuter avec nous, elle n'avait pas envie de... Et en même temps, elle avait raison, elle savait qu'elle a... Oui. Qu'on n'avait pas le rapport de force, etc. Donc le sous-préfet nous avait dit, pour faire un pas réel, c'est mieux que vous abandonnez cette revendication, que vous la placez uniquement en justice, c'est-à-dire auprès du tribunal, auprès des prud'hommes, ce qui se passe, quoi. Et donc du coup, ben, c'est ce qu'on a fait pour en fait avoir un rendez-vous avec la gérante, en fait.
C'est ça qui a déclenché le rendez-vous avec la gérante et ensuite le DRH.
Voilà. Non, le DRH est arrivé bien plus tard.
Ah ouais, quand même.
Le DRH est arrivé après le blocage, à Toulouse.
Et moi, en France, ça n'a pas fait des petits.
En France, c'est alors l'actualité chez McDonald's en ce moment, elle a été remise au bout du jour, et qu'il y a des camarades de la région parisienne et de Marseille qui ont fait une action là récemment, parce que eux, ce qui se passe, ils ont ce sont des McDo France. Nous, on est des franchises, donc nous, c'est une gérante qui loue l'immobilier, je tiens bien à préciser, à McDonald's. Et donc après, il paye un loyer, et ce loyer, en fait, est reversé à McDo France. Donc aujourd'hui, notre patronne, elle paye ses impôts, mais l'argent qu'elle reverse à McDo France, cet argent-là, lui, il n'est pas reversé dans l'économie...
Ça part en Irlande, là ça part au Luxembourg,
ça part en Irlande, etc. Et donc il y a entre 12 et 18% du chiffre d'affaires, selon les McDo, qui est envoyé à McDo France, et cet argent-là, ben, il n'est pas réinvesti, il ne va pas dans les impôts, etc. Et donc eux, ce qui se passe, c'est que ces employés-là, de ces McDo France, eux, ils ont des meilleures conditions de travail que nous, enfin, entre guillemets, ils font toujours des sandwichs, etc. Enfin, ils sont toujours en ville, quoi. Mais ils ont des meilleurs salaires, ils ont une grille de salaire un petit peu plus élevée que nous, ils ont un 13e mois, ils ont des choses un petit peu mieux, vu qu'ils appartiennent au groupe McDonald's. Et nous, on est des entités... on est des entités de state, quoi. On n'appartient pas à McDonald's, on n'appartient pas à McDonald's France. Et c'est ça qui est très important à souligner, c'est que ces employés actuellement, là, de Marseille et de Paris, ils vont être vendus. Donc c'est-à-dire que tout leur acquis de leur, du fait qu'ils sont à Mac de France, mais ça va disparaître. Les mandats syndicaux, ben, ils vont sauter aussi, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ils se mobilisent pour garder leur. Pour qu'ils ne soient plus en vente et que Mac de France les garde. Donc il y a celui des Champs-Élysées, un des plus gros McDo qui fait le plus de chiffre d'affaires au monde, qui va être vendu là. Donc c'est pour ça que ça pose vraiment problème à ces salariés qui en plus ont des syndicats, donc ils ont des structures qui se battent pour garder leurs droits et pour en faire de nouveau. Donc c'est pour ça qu'ils se mobilisent assez fortement. Et donc oui, ça fait petit. Je sais qu'on a été suivi à l'international aussi. Je sais que les salariés qui ont fait la campagne du Fight for 13 aux États-Unis, du Fight for 15 aux États-Unis, c'est-à-dire c'est les salariés dans des McDo, et c'est-à-dire que c'est-à-dire que en fait eux dans les McDo aux États-Unis, ça a un peu démarré de la même façon que nous. C'était des petits groupes de salariés de 3-4 qui ont commencé à sortir de leur travail avec des banderoles, des pancartes pour dire que ils voulaient des augmentations de salaire. Et en fait les autres, au fur et à mesure, sont sortis, etc. Ils ont grandi des mouvements, et en fait ce qui s'est passé, c'est que dans huit États, c'est appliqué, c'est-à-dire qu'ils ont le $15 de l'heure. Donc c'est-à-dire que c'est une lutte qu'ils ont réussi à constituer, qui s'est appliquée dans énormément de McDo aux États-Unis. Et donc nous, c'est aussi ça qui nous a influencés. Nous, on demandait justement pour faire référence à cette lutte, on demandait le $13 de l'heure. C'était pour faire référence à ce combat-là et pour avoir un point de revendication. Bien sûr, on savait très bien qu'on n'aurait pas le $13 de l'heure. C'était pas un point bloquant. C'était pour aller dans le débat avec les clients, avec les autres salariés, et de leur expliquer que de par cette revendication, pour faire passer le message que aux États-Unis, une terre où il n'y a pas de syndicat, où il n'y a pas le droit de grève, etc., où on n'a pas les mêmes conditions que nous en France pour faire valoir ses droits, on réussit à avoir une sacrée augmentation de salaire qui leur a bien changé la vie, quoi, et qui a montré aussi que McDo, il a l'argent. C'est juste qu'aujourd'hui, il ne veut pas répartir sa richesse pour que ses salariés vivent de façon digne. Et c'est ça aujourd'hui qui est vraiment problématique, sans parler de toute l'évasion fiscale qui ne vous revient pas à vous aussi.
Et du coup, est-ce que dans les 10 à 15 ans à venir, il ne faut pas justement éradiquer ce modèle social au sein de cette entreprise, et voire éradiquer cette entreprise tout court?
Sauf que ça, c'est pas... Sauf que ça, le problème, c'est que ça aussi, ça a été une réflexion qui est souvent revenue durant la glace. Et on dit, mais de toute façon, on nous disait, mais McDo, c'est de la merde. Pourquoi vous y travaillez? Pourquoi vous défendez même ça, en fait? On avait même des militants.
Non, mais dans l'urgence, je peux le comprendre. Voilà, dans la précarité dans laquelle on se trouve, je dis on se trouve. Voilà. Ça, je peux le comprendre, mais en matière de santé publique, en matière de modèle social...
Oui, mais enfin, nous, moi, ce que je disais aux gens, aux personnes qui nous faisaient ce genre de réflexion, ce genre de remarques, exactement, c'est que si ça doit arriver, c'est-à-dire que nous, on pense que ça doit être les clients qui doivent le demander, et nous, avec les salariés. Là, il doit y avoir une concertation pour qu'après, on change ce modèle de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on n'a pas le rapport de force pour pouvoir changer la nourriture et les recettes de...
Il faut créer un Mac Marcel.
C'est peut-être ça qu'il faudrait faire. C'est peut-être ça qu'il faudrait faire. Mais en attendant, nous, on s'est dit il faut qu'on pense aux salariés qui travaillent en attendant. On ne va pas les ignorer sous prétexte que c'est un travail de merde, et nous on y travaille aussi. Et donc on ne va pas valoriser notre propre travail. Donc, du coup, on s'est dit, on va essayer de faire vivre une lutte, faire vivre le fait qu'on peut travailler de façon plus digne.
C'est vraiment les conditions,
avec nous, ça a toujours été dans l'espoir que le mouvement s'agrandisse, que d'autres McDo se disent pourquoi pas, on va les rejoindre. C'est vrai, ils n'ont pas tort. Et de toute façon, c'est ce que, en quoi je vais employer ma vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé et ce qu'il y a eu de cette lutte, c'est très bien, j'ai trouvé le sens à ma vie. C'est-à-dire que, autrement dit, la grève, c'est pour ça qu'elle est toujours gagnante, c'est-à-dire qu'elle nous transforme. Moi, je vois bien la personne que j'étais il y a 2 ans, avant que je devienne militant, avant que je devienne syndiqué, avant que je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi, en fait, et que j'arrête de regarder le bout de mon nez. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que maintenant, je sais pourquoi je vis. C'est-à-dire que avant, je ne savais pas. Je ne me plaisais pas dans le monde où j'étais. Je ne me plaisais pas dans ce que je voyais du monde. Je me trouvais moche. Je n'aimais pas vivre dans ce que je voyais. Parce que justement, je n'avais pas de solution. Je pensais qu'on ne pouvait rien faire, que c'était ça et puis c'était pas autrement. Et au final, je me suis trompé. Je me suis trompé. J'ai vu qu'il y a plein d'alternatives, qu'on pouvait changer les choses ensemble et qu'on pouvait amener ça avec les autres. Après, je me suis rendu compte que j'étais un peu des fois seul à avoir ce genre de façon de voir les choses, mais je me suis dit, mais c'est pas grave, on peut leur expliquer aux gens, on peut essayer de les convaincre qu'il n'y a pas qu'un seul modèle, qu'il y en a d'autres, et c'est surtout à nous de le demander, parce que en tant que citoyen, on est toujours légitime à demander de nouvelles choses, à demander des droits, etc. Et ça, je pense que c'est une notion qu'on a trop longtemps oubliée, qu'en tant que citoyen, on a naturellement un pouvoir, qu'on peut dire ce qu'on a envie de dire, qu'on est légitime à s'exprimer, notamment sur notre travail, en plus, parce que c'est nous qui le faisons. Et donc, ça, je pense que c'est... Les salariés, ils ont, surtout notamment au McDo, ils ont oublié ça. Ils n'ont pas oublié, vu qu'ils ne le savent pas, en fait. Ils ne savent pas qu'ils ont un pouvoir d'expression, qu'ils peuvent dire les choses, qu'ils peuvent se retirer s'ils trouvent ça trop dangereux, s'ils pensent que leur dignité est atteinte, etc. Et sauf qu'aujourd'hui, ça, c'est les droits que les salariés n'ont plus. Étant donné qu'on va leur dire, si tu ne fais pas ça, tu t'en vas. Il y a plein de gens qui sont prêts à tout pour avoir ce CDI, ce fameux Saint Graal. Et nous, on nous le répète assez souvent, ne vous plaignez pas, vous avez un CDI. Parce qu'aujourd'hui, si on veut avoir un appartement, si on veut avoir une voiture, c'est la chose à avoir si on veut arriver à avoir juste survivre, quoi. Et donc c'est avec cet argument-là qu'ils arrivent à nous asservir, quoi. Vraiment, j'utilise ce terme qui est peut-être un peu fort. Quand je vois ce que les salariés subissent après le travail, parce que souvent moi je l'ai ramené, vu qu'il y en a plein qui n'ont pas le permis, qui n'ont pas la voiture. Donc souvent moi j'y allais le soir après la fermeture pour aller les chercher, pour les ramener, etc. Et c'est ces moments-là les plus intéressants, parce que c'est ces moments-là qui se confiaient, en fait. Parce que vu qu'en plus, je rendais un service, je venais les chercher, ils n'étaient pas obligés de rentrer à pied sous la pluie, etc. Et c'était là qu'ils arrivaient à se confier. Mais sinon, au travail, en dehors, on suit le rang, on ne se montre pas, que c'est très mal vu de me parler, en fait. C'est ça le problème.
Tu es super subversif comme garçon.
Et donc ça a été un combat, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, et on ne s'est pas arrêté à ça. Et c'est parce que je suis éperdument convaincu que si les gens ils ne font pas ou qu'ils ne se mobilisent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas. Et alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y en a qui sont complètement convaincus de ce qu'ils font, qui sont très conscients, mais ça, pour le moment, j'ai pas envie d'accepter cette réalité-là. Je pense que je préfère me dire qu'il y a un espoir, qu'on peut leur montrer une autre façon de voir les choses et qu'on n'est pas juste condamné à subir ça, quoi. Et que vraiment, ce qu'on fait, c'est juste, et j'en suis convaincu. C'est pour ça que je me bats avec autant de ardeur et que j'ai trouvé, voilà, un sens à vivre.